Les matins de France Culture, Guillaume Erner.
Bonjour Éric Birloise, vous êtes ingénieur agronome et sociologue de l'alimentation. Bonjour Florence Burga, vous êtes philosophe et directrice de recherche à l'INRA. Avez-vous l'impression que l'on parle des animaux au salon de l'agriculture ?
Alors non, je crois qu'on ne parle pas des animaux au salon de l'agriculture, puisque au salon de l'agriculture, au fond, c'est plutôt la cause des éleveurs qui est mise en avant. Et probablement aussi, est-ce difficile dans la mesure où les gens viennent voir les animaux, je crois, ne savent pas qu'en fait, les animaux qui sont là ne retournent pas à l'élevage, mais sont abattus juste après le salon. Et que donc, je crois qu'évoquer cette cause, eh bien, brouillerait encore la question des éleveurs et qu'ils mettent la lumière sur d'autres questions.
Il y a beaucoup de questions évoquées néanmoins au sujet de la cause animale. C'est, à mon sens, une cause qui est de plus en plus présente à l'esprit du public. On a vu des vidéos très choquantes circuler sur des abattoirs, y compris sur des abattoirs bio. Alors, s'agissait-il de cas isolés ou bien pensez-vous, Florence Burga, que si l'on entrait dans un abattoir, eh bien, on se retrouverait face aux mêmes scènes ?
Alors, les témoignages qui ont pu être fournis au long de du XXe siècle et même avant, puisque j'avais un petit peu travaillé sur ces questions. Le document le plus récent que nous possédons, c'est l'enquête de Jean-Luc Daube, Ces bêtes qu'on abat, pardon, qu'il a publié en 2009, montre que dans la mesure où ce travail tout à fait particulier qui consiste à tuer les animaux est un travail tout à fait, enfin, qui invite, si vous voulez, à ce type de
scène de sauvagerie avec une absence radicale de tout traitement visant à atténuer les douleurs des animaux. Si l'on prend les choses, Éric Birloise, à la fois dans ce que l'on a vu à Alès et à Vigan dans ces deux abattoirs, on voit que les animaux ne sont pas évanouis, qu'ils sont poussés contre des barrières. Bref, des scènes tout de même très choquantes.
Oui, ce sont des réalités qui sont montrées. Et là, il faut bien voir évidemment que l'impact des images est extrêmement fort. Là, on touche à une dimension émotionnelle qui fait forcément réagir.
Mais est-ce qu'on a affaire à deux abattoirs qui dysfonctionnent ?
Là, je suis mal placé pour le dire, mais je crois qu'effectivement, il y a réellement des soucis sur les conditions d'abattage des animaux. Et pour moi, je crois que c'est vraiment un des chantiers urgents à mettre en œuvre.
Qu'est-ce qu'il faudrait faire ?
Parce que je pense qu'il faut vraiment simplement se pencher sur le sujet parce que on voit bien dans la société la montée en puissance de la sensibilité au bien-être animal. Ce que l'on ne voulait pas voir, finalement, loin des yeux et tout allait bien, est quelque chose aujourd'hui qui est mis sur la place publique. Et donc, il faut absolument se saisir de cela. Je pense qu'il y a tout un tas de cruautés qui ne sont pas nécessaires et qu'il faut absolument régler. Après, bon, ce sont des modalités techniques. Là, je ne suis pas spécialiste
pour y répondre. Sans entrer dans des modalités trop techniques, on a par exemple beaucoup parlé de l'abattage rituel halal et cachère. On a dit que ce qui posait problème, par exemple, c'est que la bête n'était pas évanouie avant d'être tuée. Et on se rend compte finalement que dans ces deux abattoirs, à la fois à Alès et au Vigan, les bêtes n'étaient pas non plus évanouies alors qu'il ne s'agissait pas du tout d'abattage rituel.
Oui, alors ce que le ministère de l'Agriculture m'avait dit à un moment donné, c'est que les petits animaux, c'est-à-dire les veaux et les moutons, bien que la réglementation impose cet étourdissement, souvent ne l'étaient pas pour des raisons simplement de temps gagné. Il y a aussi le fait que, comme on l'a appris, les services vétérinaires, lorsqu'ils sont plutôt présents à l'autre bout de la chaîne concernant les aspects sanitaires, et que par conséquent, on a compris que personne ne veillait à l'application de la réglementation. Et puis, ce qui a été montré là aussi, c'est le caractère souvent défectueux du matériel, parce qu'en effet, quand on lit la réglementation, on peut être d'une certaine manière rassuré de voir ces termes étourdissement, insensibilisation, qui induisent l'idée d'une sorte d'endormissement profond. Or, il faut voir que, eh bien, il y a des animaux qui ont plus ou moins de laine sur la tête, que donc la pince électronarcose marche plus ou moins. Tous ces éléments qui permettent de comprendre ce qui a été montré.
Alors cette scène, en tout cas, elle a été filmée puis diffusée grâce à l'association L214. Et c'est ce film qui a relancé la polémique sur les conditions d'abattage des animaux.
Il y a quelques mois, L214 a révélé des images tournées à l'abattoir d'Alès, qui met en lumière la cruauté de la mise à mort des animaux. Vous êtes probablement dit que c'était une exception. Les images qui vont suivre ont été tournées dans un abattoir certifié bio, qui fonctionne en circuit court et qui approvisionne des commerçants locaux et des boucheries locales. Ces nouvelles images de L214 montrent la violence subie par les moutons, l'agonie des cochons, des vaches et des taureaux. Elles ont été tournées dans l'abattoir du Vigan, dans le Gard. Les moutons refusent de rentrer dans le couloir. Ils se rassemblent et cherchent à fuir. Mais ces animaux apeurés sont manipulés avec violence.
Éric Birloise, vous qui êtes ingénieur agronome, c'est grâce à ce type de film que l'on a pris conscience qu'il ne pouvait pas y avoir de méthodes d'abattage qui ne produisent absolument aucune souffrance animale.
Oui, évidemment, ça c'est quelque chose. Alors moi, ce que je voulais dire, c'est que quand on évoque les abattages rituels, kasher et halal, il faut avoir conscience qu'à l'origine, ces abattages étaient censés faire moins souffrir l'animal. Et là, on touche évidemment à cette question qui est pas du tout récente, qui est vieille comme le monde, qui est celle de la souffrance de l'animal. On sait que dans la Grèce antique, on sait que dans ces abattages rituels, il faut que les choses soient bien faites, que le couteau soit bien affûté, que celui qui manie le couteau soit quelqu'un de d'expérimenté. Donc on a ce souci, en tout cas à l'origine, on avait ce souci très 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 fort, très présent.
Est-ce la conséquence de cette prise en compte de la souffrance animale, en tout cas la part de la viande dans le budget alimentaire des Français décline, elle représentait 26% en 1967, c'était l'apogée de la consommation de viande, elle est aujourd'hui aux environs de 20%, est-ce un déclin inéluctable selon vous ?
Oui, alors c'est pas récent, hein, vous l'avez dit, c'est effectivement la diminution de la consommation de viande en France, c'est de la viande rouge, ça a commencé par la viande rouge, et c'est 1980. Alors on pense souvent à la vache folle, sauf que c'est 16 années avant la vache folle. À l'époque, on se préoccupe pas vraiment beaucoup du bien-être animal. Si la viande rouge commence à diminuer, c'est pour tout un tas de raisons qui sont liées au fait que cette viande dispensatrice de force, de puissance musculaire, a moins sa place dans une société post-industrielle, que la viande qui, au cours des Trente Glorieuses, a été une conquête sociale, et bien aujourd'hui tout le monde mange de la viande et donc finalement ça n'est plus un élément de distinction sociale. Il y a les discours nutritionnistes évidemment qui vont jouer. Donc tout cela explique, et puis plus récemment évidemment l'environnement, etc. Donc tout ça explique ou contribue à expliquer le déclin de la viande qui est pour moi en tout cas clairement une tendance lourde.
Ça c'est une évolution sociale. Est-ce qu'il y a une évolution philosophique, Florence Burga, vous qui êtes philosophe? Bien souvent on a tendance à dire que la pensée philosophique au sujet des animaux, les assimiler à des machines, on pense évidemment à Descartes. Quand est-ce que les choses évoluent? Quand peut-on voir apparaître une pensée philosophique de l'animal qui ne soit pas une pensée purement mécaniciste?
En fait, elle est présente tout au long de l'histoire de la philosophie, comme vous l'avez évoqué. Le débat grec, déjà, a produit finalement tous les concepts qui nous permettent de penser aujourd'hui, par exemple, la question des droits des animaux, la question de la souffrance. On a bien sûr les textes de Porphyre, hein, qui récapitulent tous les arguments autour du sacrifice. Le texte de Plutarque, s'il est loisible de manger chair, qui est un peu le texte fondateur de la question sur l'alimentation carnée. Donc on peut dire que dès l'aube de la philosophie, cette question a été posée. Alors ensuite, tout au long de l'histoire de la philosophie, il y a différents courants, mais cette préoccupation jalonne tous les siècles, y compris à l'époque de Descartes. Et plus près de nous, on peut dire que depuis une vingtaine d'années, il s'est passé quelque chose tout de même de singulier, c'est une production philosophique suivie sur cette question, et le fait que le monde académique, du coup les universités, se sont penchées sur le problème et que l'animal était le thème de l'agrégation de philosophie à 3 ans.
S'il fallait citer un nom de philosophe, peut-être pourrait-on évoquer celui de Peter Singer, qui est un philosophe très connu dans le monde anglo-saxon, qui a forgé la notion de spécisme, qui serait une forme de racisme imposé aux animaux. Que pensez-vous de cette notion, Florence Burka?
Alors, cette notion, je ne sais pas si elle est absolument fondamentale hein, au regard d'autres notions, mais elle vise simplement à mettre le doigt sur une faute de raisonnement qui serait analogique avec celle que l'on trouve dans le racisme et le spécisme, et le sexisme, pardon, et qui consisterait en fait à partir uniquement du critère de l'espèce comme étant un critère moralement pertinent, sans examiner quel est le contenu finalement de telle et telle espèce.
Voilà. Mais alors quelles seraient les conséquences de cela? Parce qu'on a du mal à penser le droit des animaux. Le droit des animaux existe, de fait, il est aujourd'hui plus ou moins bien défendu, mais on a du mal à penser le droit d'un animal qui n'est pas forcément sujet de droit. Comment le penser en tant que philosophe?
Alors, la question de l'animal sujet de droit semble effectivement difficile à entendre dans la mesure où l'humanisme juridique associe au droit certaines capacités qui sont celles de l'humain adulte, rationnel, parlant, pouvant revendiquer ses droits, observant des devoirs. En réalité, quand on se penche sur d'autres sources, d'autres fondements du droit, on s'aperçoit que l'élément commun est nécessaire et suffisant pour fonder les droits de l'homme qui ne soient pas simplement limités aux individus pouvant revendiquer leurs droits et observer des devoirs, c'est ce que Rousseau a pensé hein, sous la notion de sensibilité, dont on peut bien sûr donner un concept assez raffiné, c'est-à-dire pas simplement un concept qui désigne la possibilité de ressentir du plaisir et de la souffrance, lequel peut encore être compris de façon un peu réductrice. Bon. Donc cette sensibilité serait au fondement des droits humains au sens large et des droits de tous les êtres sensibles, c'est-à-dire de l'ensemble des animaux.
Éric Birlouez.
Oui, alors se pose par rapport à ça une autre question que je trouve tout à fait intéressante, qui est que on parle du règne animal comme quelque chose de, comme une entité globale. Or, il est évident que, est-ce qu'on peut dire que la puce que le chien porte dans sa fourrure vaut, entre guillemets, le chien? Donc il y a vraiment peut-être, je ne sais pas si on peut parler de droits différenciés, mais c'est vrai qu'on a souvent tendance à considérer l'animal et le règne animal comme une entité, alors que, on voit bien que...
En tout cas, il y a des pratiques différenciées de la part des mangeurs. On considère, alors peut-être à tort, que la capacité d'éprouver de la douleur n'est pas la même pour une crevette, par exemple, et pour un bœuf. Qu'en pensez-vous en tant qu'ingénieur agronome, Éric Birlouez?
Oui, alors là, moi, je suis pas spécialiste de cette question-là. J'aurais plutôt effectivement tendance à penser que les vertébrés, particulièrement les mammifères, ont des niveaux ou des degrés de sensibilité qui ne sont pas ceux du ver de terre.
L'autre notion qui prend de plus en plus de place dans le débat public, c'est la notion de véganisme. Oui. Peut-être pourriez-vous la définir, Éric Birlouez?
Alors effectivement, on parle, là encore, on a l'habitude d'utiliser le singulier, on va parler du végétarisme, comme on parle du règne animal. Je pense qu'il faut vraiment parler des végétarismes, et une des formes du végétarisme, alors certains diront c'est la plus radicale, ou la plus cohérente, diront les véganes, c'est de considérer que l'animal ne peut pas être un objet d'exploitation par l'homme. Donc un végan est une personne qui non seulement ne va pas manger de viande, qui ne va pas non plus manger des produits animaux, mais qui ne va pas non plus porter des chaussures de cuir, des foulards de soie sauvage, des pulls de laine, et qui n'emmènera pas ses enfants au cirque ou au zoo.
On écoute Meryl Pink. Meryl Pink est écrivaine, elle est porte-parole de l'association vegan.fr dans le documentaire Confession Vegan, diffusé dans Sur les Docs en octobre 2014. Elle évoquait le caractère intrinsèquement herbivore de l'homme.
Physiologiquement, on est 100% herbivore. On a des intestins très longs, les carnivores ont des intestins très courts. Pour évacuer la chair avariée qui pourrit dans le corps, il faut l'évacuer très vite, donc c'est pour ça qu'ils ont des intestins très courts. Nous, on a des intestins très longs, on a des dents plates, On mastique de gauche à droite, les carnivores mâchent de bas en haut, et la meilleure preuve en est, c'est qu'on n'a pas du tout besoin de produits d'origine animale pour vivre, contrairement aux vrais carnivores qui, eux, ont besoin de viande pour vivre. C'est-à-dire un lion mourrait s'il mangeait pas de viande, ce qui n'est pas du tout notre cas.
Vous avez l'air de froncer les sourcils, Éric Birloise.
Écoutez, si j'en crois ce que disent les paléoanthropologues qui ont bien étudié cette question, non, l'homme est clairement, depuis l'origine, depuis les premiers Homo habilis, il y a à peu près 2,5 millions d'années, est clairement un omnivore et un vrai omnivore. Ça veut pas dire, être omnivore ne veut pas dire qu'il doit nécessairement manger de la viande. Il y a tout un tas de végétariens qui sont en parfaite santé. Mais ça ne veut pas dire non plus que la viande est un poison. Donc clairement, l'homme est un omnivore.
Mais ça veut dire que si l'on décidait d'arrêter de manger de la viande, si ce fait devenait un fait massif, eh bien il y aurait une évolution anthropologique de l'homme, selon vous ?
Alors, il faudrait peut-être attendre très très longtemps pour cela.
En tout cas, si on reprend les Lévi-Strauss, dans le cru et le cuit, se rend compte qu'il y a là une vraie tendance chez l'être humain à manger des animaux, et le fait de ne plus en manger serait en quelque sorte une rupture.
Oui, alors c'est plutôt le fait de faire cuire sa viande, hein, finalement, qui est un caractère plutôt distinctif de l'humain.
On continue à évoquer ce thème à 8h15. Nous serons rejoints par le neurobiologiste Alain Prochian, professeur au Collège de France. Et nous verrons donc si la cause animale peut introduire une nouvelle étape dans l'humanité de l'homme ou bien s'il s'agit peut-être actuellement d'une sorte de mode, d'une tocade, quelque chose qui n'est pas amené à durer. Il est 7h56 sur France Culture.